Bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous ramener à ma jeunesse. J'ai récemment animé une étude biblique pour les jeunes, ce qui m'a beaucoup plu, et certains d'entre vous l'ont peut-être entendu. Je sais que ces études bibliques pour les jeunes sont souvent suivies par de nombreux membres de l'Église qui ne font pas partie de ce groupe, et c'est formidable. Mais je voudrais vous ramener un peu à ma jeunesse avant de vous présenter ce message. Quand j'étais jeune, j'aimais faire du skateboard, et je crois l'avoir mentionné lors de mon étude biblique pour les jeunes. J'adorais faire du skateboard avec mes frères. Nous avions un passe-temps commun, si l'on peut dire, je ne sais pas, un hobby, une activité récréative, peu importe le nom que vous lui donnez. Et nous aimions le pratiquer ensemble. Ils avaient des amis qui faisaient du skateboard, j'avais des amis qui faisaient du skateboard, et nous sortions ensemble pour en faire. Nous construisions des rampes dans notre maison. C'était très amusant. Mon père nous aidait. Nous construisions de grandes caisses sur lesquelles nous pouvions faire du skateboard et faire des figures sur les rails qui descendaient sur les côtés. J'ai dit à mes parents, et ma mère me le rappelle encore aujourd'hui parce que je ne le fais plus, que je lui avais dit que je ferais du skateboard jusqu'à ma mort, et ce n'est clairement plus le cas. Vous savez, quand on est enfant, on a de grandes aspirations dans la vie, et on dit des choses qui, à l'âge adulte ou à mesure que la vie nous rattrape, on ne fait plus. Je veux dire, il y a des skateurs professionnels qui sont adultes aujourd'hui, mais je n'en fais pas partie. Mais quand j'étais jeune, j'admirais certains skateurs et skateurs professionnels de l'époque. Si vous voyez ce que je veux dire, vous avez peut-être entendu parler de noms célèbres comme Tony Hawk. J'avais Tony Hawk, c'était mon premier skateboard, c'était le skateboard de Tony Hawk, et j'avais ses chaussures et tout le reste. Au début, ou plutôt au milieu et à la fin des années 90, j'étais à fond sur Tony Hawk. Et Rodney Mullen, un autre skateur célèbre. J'adorais sa façon de skater, ce qu'il faisait. Et Shay Thomas et tout un tas d'autres skateurs, dont la plupart d'entre vous ne connaissent probablement pas les noms, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Le fait est que je les admirais. Je voulais être comme eux, j'aspirais à leur ressembler. Je voulais savoir faire du skateboard comme eux, faire les mêmes figures, de la même manière. Ils avaient l'air tellement cool quand ils faisaient ça, je me disais, waouh, ils ont l'air tellement cool, je veux faire comme eux. Et donc, quand j'étais petit, je rêvais de leur ressembler, de faire du skateboard. Il en a été de même quand j'ai commencé à jouer du violon. J'ai grandi en m'entraînant plusieurs heures par jour. Je voulais devenir. Je ne savais pas si je voulais devenir violoniste professionnel quand j'étais jeune, mais j'aurais certainement pu suivre cette voie si je l'avais voulu. Mais j'ai fini par changer d'orientation à l'université pour me tourner vers l'architecture. J'ai beaucoup pratiqué. J'ai pris des cours, j'ai répété avec toutes sortes d'orchestres différents, petits orchestres, grands orchestres, orchestres complets avec un groupe derrière. Et j'aspirais à être comme des gens comme Itzhak Perlman, l'un des plus grands violonistes de notre époque. Il est encore en vie aujourd'hui. Ou Joshua Bell, et d'autres personnes qui sont devenues violonistes professionnels. Je les regardais et je me disais, waouh, j'adore leur son, j'adore leur façon de jouer, j'adore les techniques qu'ils utilisent. Itzhak Perlman, c'est curieux, c'est un homme imposant. Il a des doigts énormes, et j'ai toujours été étonné de voir avec quelle agilité il les bougeait sur son violon. Je ne comprenais pas comment il pouvait avoir des doigts aussi gros et jouer avec autant d'agilité, de rapidité et de précision. Mais il y arrivait, et je l'admirais. Je l'admirais. Je vais donc vous poser cette question, qu'est-ce qu'un modèle? Qu'est-ce qu'un modèle? C'est quelqu'un que l'on admire. Et la définition d'un modèle est une personne que les autres considèrent comme un exemple à imiter. Je voulais imiter Tony Hawk et Rodney Mullen, ainsi que certains des grands skateboarders de ma jeunesse. Je voulais imiter Xcel Grumman et Joshua Bell au violon. Mais qu'est-ce qui pousse une personne à vouloir imiter quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui pousse une personne à vouloir faire cela? C'est assez simple. C'est parce que nous aimons ce qu'ils font. Nous aimons ce qu'ils font, que ce soit leur façon de parler. Si vous aimez la façon dont quelqu'un parle dans la vie, peut-être parce que c'est un bon orateur, un bon conférencier, un bon causeur, vous aimez sa façon de converser, vous aimez sa façon de parler, et vous voulez l'imiter. Vous aimez son caractère ou sa façon de s'habiller, et vous voulez l'imiter. Vous aimez sa façon de sourire ou de rire, et vous voulez l'imiter. Avoir des modèles tout au long de la vie est une chose très saine à bien des égards. Car sans eux, sans ces personnes qui sont des professionnels ou qui excellent dans un domaine, sans ces personnes auxquelles aspirer, nous ne serions pas capables de nous améliorer dans la vie. Je savais que je n'étais pas aussi bon qu'Itzhak Grumman au violon, alors j'aspirais à devenir comme lui. Je voulais jouer comme lui. Je voulais être comme lui au violon. Il est devenu un modèle et un idéal à atteindre. C'est pourquoi les modèles sont importants. Passons au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Ce que nous allons voir maintenant peut sembler sans rapport, mais je ferai le lien dans quelques minutes. Ouvrez votre Bible au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Nous allons lire le premier verset. Le chapitre 11, verset 1, dit ceci, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la substance. » C'est la définition de la foi dans la Bible. Dieu définit les choses dans la Bible, et ici, il définit la foi, ce qu'elle est. La foi est la substance des choses qu'on espère et la preuve des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, le mot « substance » est assez fascinant. En tant qu'architecte, en tant que personne qui a fait des études d'architecture, je ne suis pas architecte, mais en tant que personne qui a fait des études d'architecture, je peux apprécier cela et le comprendre à un degré plus élevé. Ici, le mot « substance » est le mot « hypostasis », qui vient d'un mot composé du mot « hypo », qui signifie « sous », et « istomie », qui signifie « se tenir debout ». La définition du mot « hypostasis » est donc un support ou un fondement. D'un point de vue architectural, pensez-y comme à des fondations. Le mot « substance » signifie « support ». La foi est donc le support des choses invisibles. Excusez-moi. La foi est le fondement, si vous voulez, le support ou la structure, le fondement des choses espérées et la preuve des choses invisibles. Considérez-la comme le soutien. La foi est le soutien ou le fondement de notre foi, qui est défini par nos actions, par ce que nous faisons. Les choses que nous faisons dans la vie montrent notre foi. Vous vous souvenez, dans Jacques 2, verset 26, vous pouvez juste tourner la page rapidement. Jacques 2, verset 26, un verset très familier, nous le connaissons tous, dit ceci, « Car, comme le corps sans l'esprit est mort. » Nous le savons tous. Si nous n'avons pas d'esprit dans notre corps, nous sommes morts. De la même manière, Dieu compare un corps sans esprit à un corps mort, et la foi sans les œuvres est morte. Imaginez que votre corps est la foi et que votre esprit est les œuvres. Si vous n'avez pas les œuvres de votre esprit, le corps de la foi est mort. Vous n'avez pas la foi. La foi sans les œuvres est morte. Le fondement de notre foi est donc défini par nos actions, ce que nous faisons, les œuvres que nous accomplissons dans la vie. Alors, Comment savoir si nous avons la substance adéquate? Si je peux m'exprimer ainsi. Pour revenir à la définition, vous pouvez vous reporter à Hébreux 11:1. Comment savoir si nous avons la substance adéquate ou le fondement de notre foi? Réfléchissez-y, mes frères. C'est là que cela nous ramène au modèle. La Bible nous présente de nombreux grands modèles, des modèles de foi. Et nous avons un chapitre entier consacré à ces modèles. Et ces modèles nous montrent, Dieu nous dit, ce qu'ils ont fait dans leur vie pour démontrer leur foi. Ces modèles ont eu certaines actions, ils ont agi d'une certaine manière, ils ont vécu leur vie d'une certaine manière, de telle sorte que ces actions, encore une fois, la foi sans les œuvres est morte, ces actions ont défini leur foi. Et donc, si nous avons une aspiration, tout comme j'avais une aspiration quand j'étais enfant, celle de devenir comme Tony Hawk, Rodney Mullen ou Xavier Roman, si nous avons l'aspiration de devenir comme l'un des grands, les grands leaders de la foi biblique dans l'Église de Dieu à travers les millénaires, si nous voulons aspirer à être comme ces grands noms du panthéon de la foi hébraïque, si je peux m'exprimer ainsi, alors nous devons nous inspirer de ce qu'ils ont fait. Si je voulais étudier comment Yitzhak, si je voulais devenir meilleur au violon, je devais étudier comment Yitzhak Perlman utilisait ses doigts, comment il changeait de position, la façon dont il utilisait son archer. Je devais étudier ses mouvements. Je devais étudier son intonation, son timbre. Je devais étudier tout ce qui faisait de lui ce qu'il était. Tout comme je devrais étudier Yitzhak Perlman pour devenir un meilleur violoniste, nous devons étudier les actions des grands personnages de la Bible si nous aspirons à devenir nous-mêmes grands dans la foi. Donc, encore une fois, la foi telle que définie par les actions de ceux qui figurent dans le panthéon de la foi, dans Hébreux 11, se divise en quatre catégories. Nous allons aborder ces quatre catégories aujourd'hui. Au fur et à mesure de notre lecture, vous pouvez penser à toutes les différentes personnes qui figurent dans ce chapitre, Abel, Noé, Enoch, Sarah, Abraham, Isaac, Jacob, toutes les différentes personnes qui y figurent, Moïse, ses parents, Rahab, toutes ces personnes avaient une grande foi. Mais ce que nous allons faire, c'est analyser et disséquer, et comprendre ce qu'elles ont fait qui leur a permis d'avoir une grande foi. Nous savons tous que c'était des personnes fidèles, mais pourquoi? Pourquoi étaient-elles fidèles? Qu'ont-elles fait? Que pouvons-nous imiter chez elles? Car elles sont nos modèles en matière de foi? C'est le sujet de ce message. Plongeons-nous donc dans le premier point. La foi, c'est. C'est le titre de ce. Ce sermon s'intitule « La foi, c'est ». Et il portera sur quatre choses. La foi, c'est tout d'abord le sacrifice. Nous allons passer beaucoup de temps sur le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux aujourd'hui. Vous pouvez donc prendre votre marque-page, si vous en avez un dans votre Bible. Je vous recommande de le mettre à cet endroit afin que nous puissions y revenir facilement et régulièrement. En effet, nous allons faire des allers-retours entre le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, mais nous y reviendrons assez souvent aujourd'hui. Comprenons donc ce qui rend le sacrifice si important, où il se trouve dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, et pourquoi il est lié à la foi. Relisons le verset 1 et continuons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que les choses que l'on voit n'ont pas été faites à partir de choses qui apparaissent. Aucun d'entre nous n'est allé à n'exister au moment de la création. Si vous y réfléchissez, nous devons avoir la foi pour croire que le monde a été créé par Dieu. parce qu'aucun d'entre nous ne l'a vu de ses propres yeux. Et nous ne pouvons pas voir Dieu de nos propres yeux. C'est tout le sens de ce verset. Il dit que Dieu est invisible et qu'à un moment donné, le monde n'existait même pas, mais qu'à un moment donné, le Dieu invisible et le Christ ont ensemble construit le monde, construit l'univers. Et cela demande de la foi pour y croire. Nous savons que ce n'est pas difficile à comprendre, car il y a aujourd'hui beaucoup de gens sur Terre qui, après 6000 ans passés à étudier la création merveilleuse de Dieu, n'ont aucune excuse pour ne pas croire qu'il y ait un créateur. Les gens ne croient toujours pas qu'il y ait eu un créateur. Ils préfèrent croire à la théorie scandaleuse du Big Bang, ou à l'évolution. Nous viendrions de la boue. Mais d'où vient la boue? D'où vient tout? Cette théorie est tellement folle et ridicule. Il est en fait beaucoup plus facile de croire qu'un grand Dieu créateur, invisible, que nous ne pouvons pas voir, a créé l'univers, y compris la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui. Mais mes frères, il faut de la foi pour croire cela, car aucun d'entre nous n'était là lors de la création. Mais cela ne fait pas partie du premier point. Voici le premier point. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel a fait ce que Dieu lui a demandé. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et qu'il a obtenu le témoignage que ses dons étaient justes, Dieu rendant témoignage à ses dons. Et c'est par cela qu'il parle, bien qu'il soit mort. Passons à Genèse 3. Nous allons lire 4 ou 5 versets ici, dans Genèse 3, qui raconte l'histoire de Caïn et Abel. Genèse 3, verset 4. Nous allons reprendre là. Excusez-moi, Genèse 4. Je me suis trompé de verset. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Caïn et Abel, les deux premiers fils d'Adam et Ève. Abel était berger, et Caïn était laboureur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta du fruit de la terre et en offrit à l'Éternel. Caïn apporta un légume ou quelque chose comme ça. Il apporta une sorte de... Je ne sais pas. Vous pouvez imaginer que c'était peut-être un navet, une pomme de terre ou du céleri. Je ne sais pas exactement ce qu'il a apporté, mais nous savons que c'était une sorte de légume ou quelque chose qui poussait dans la terre. Et il l'a offert à Dieu. Et Abel, apportant les premiers fruits, les premiers nés de son troupeau, il apporta aussi les premiers nés de son troupeau et de leur graisse. Et le Seigneur regarda avec faveur vers Abel et vers son offrande. Abel a fait quelque chose de différent. Il a décidé de sacrifier et d'offrir un animal. Le mot « prémisse du troupeau » désignait probablement un mouton ou une chèvre. Et c'est ce qu'il a apporté. À première vue, cela ne demande pas beaucoup d'efforts. Je ne sais pas pour vous, mais je préférerais de loin aller au restaurant et manger de l'agneau plutôt que des pommes de terre si j'avais le choix, ou un légume, ou une carotte. Si on me proposait une carotte ou un agneau, le choix ne serait pas très difficile à faire. Et Dieu l'a vu. Il l'a compris aussi. Mais ce n'est pas seulement que l'agneau est meilleur qu'une carotte ou une pomme de terre ou quoi que ce soit d'autre. Pensez au temps, aux efforts, à la réflexion, à l'investissement nécessaire pour offrir à Dieu quelque chose de bien plus précieux, un agneau. Si vous pensez à ce qu'il a fallu pour mettre cet agneau au monde, l'élever, le nourrir pendant toute sa vie, au potentiel que cet agneau avait de se reproduire et d'avoir d'autres agneaux et d'autres moutons, c'était un sacrifice beaucoup plus important. Peu importe que lorsque vous sacrifiez, si on peut même appeler cela ainsi, une pomme de terre à Dieu, donner une pomme de terre à Dieu, qu'est-ce que cela implique? Donnez-vous simplement la pomme de terre. Vous n'avez pas besoin de la cuisiner. La cuisinez-vous? La brûlez-vous? La coupez-vous en tranches? Quelle que soit la préparation nécessaire pour cette pomme de terre, elle aurait été minime par rapport à la mise à mort de l'agneau. L'agneau est beaucoup plus difficile, c'est un sacrifice beaucoup plus grand. Vous devez tuer l'agneau de manière appropriée et le cuisiner. Cela aurait demandé beaucoup plus de temps, d'efforts, de compétences, sans compter que cela valait beaucoup plus que cette carotte ou cette pomme de terre. Dieu l'a vu. Ce n'était pas simplement que Dieu préférait l'agneau aux carottes. C'était que Dieu voyait l'effort, le sacrifice que cela impliquait. Cet agneau valait beaucoup plus qu'une carotte. Et nous le savons simplement en allant à l'épicerie aujourd'hui. Il coûte beaucoup plus cher d'avoir un agneau, d'acheter un seul morceau d'agneau, que d'acheter un panier entier de carottes. C'est beaucoup plus cher, parce que cela a plus de valeur. Beaucoup plus de temps et d'énergie ont été consacrés à cet agneau. Revenons donc au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux 11 à 4, il est dit, relisons-le, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et le mot « excellent » signifie « supérieur en quantité, en nombre ou en qualité ». La qualité de l'offrande était donc meilleure. Et elle était peut-être même plus importante. À moins que Caïn n'ait apporté une charrette pleine de carottes ou de pommes de terre, la quantité aurait été bien plus importante, car l'offrande d'un mouton aurait été. Pensez à toute la viande qu'il y a dans un mouton. Pensez à la quantité que contient un mouton. C'était bien mieux que quelques carottes ou quoi que ce soit d'autre. C'était donc une offrande plus importante en quantité et en qualité. Et il fallait beaucoup plus de travail pour offrir un agneau que pour offrir une pomme de terre ou une carotte. Cela demandait un investissement en temps considérable. Le sacrifice d'Abel a montré à Dieu, à travers ses actions, à quel point il l'appréciait. Parce qu'il a sacrifié quelque chose qui avait de la valeur. La question qui se pose à nous aujourd'hui est donc la leçon que nous pouvons tirer du sacrifice d'Abel. Le sacrifice d'Abel, excusez-moi, c'est qu'il a fallu beaucoup de foi. Plus nous sacrifions, plus sa foi peut sembler déconnectée, mais ce n'est pas le cas. Dieu dit que la foi d'Abel était définie par sa capacité et sa volonté de sacrifier quelque chose d'important. Parce qu'il a sacrifié quelque chose d'important dans sa vie, il a été considéré comme grand dans la foi. Considérons-nous naturellement le sacrifice comme un acte de grande foi? C'est ce que dit Dieu. C'est pourquoi c'est le premier point. Lorsque nous définissons la foi, et vous verrez que ce n'est pas la seule foi où le sacrifice est mentionné dans le chapitre 11 du livre des Hébreux. Nous allons voir quelques autres exemples avant de passer au deuxième point. Le sacrifice est un aspect très important de notre foi. Plus nous sacrifions, plus nous montrons à Dieu notre foi en lui. C'est une équation. Passons au verset 17 pour le deuxième exemple de sacrifice. Verset 17. Passons à Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit Isaac, son propre fils, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, de qui il était dit que toute la postérité serait appelée. Il considérait que Dieu était capable de la ressusciter, même d'entre les morts, d'où il l'avait aussi reçu en figure. Nous n'avons pas besoin de revenir en arrière pour lire ce récit, car beaucoup de ces récits sont très célèbres pour une bonne raison. Ce sont de grands actes de foi dans la Bible. Nous n'avons pas besoin de revenir à Genèse 22 pour lire ce récit. Nous savons que Dieu a dit directement à Abraham, « Offre ton fils Isaac ». Mais par la foi, Abraham a accepté cette demande incroyablement difficile de Dieu. Il l'a accepté par la foi. Il était prêt à sacrifier son propre fils parce qu'il savait que les promesses que Dieu avait faites à Abraham par l'intermédiaire d'Isaac, puis de Jacob, et ainsi de suite, les bénédictions du droit d'aînesse qui allaient venir et se répandre sur cette lignée familiale, allaient s'accomplir. Abraham avait donc une foi absolue, parce que Dieu lui avait promis la bénédiction du droit d'aînesse. Abraham avait la foi absolue que même si son fils Isaac mourait à ce moment-là de sa propre main, Dieu le ramènerait d'entre les morts afin d'accomplir sa promesse. Tel était le niveau de sa foi. Mais regardez l'ampleur du sacrifice qu'Abraham était prêt à consentir. Il était prêt à sacrifier son fils unique à ce moment-là. Cela nous donne la mesure à laquelle nous devons nous mesurer. L'un de mes premiers sermons portait sur ce sujet, êtes-vous prêt à sacrifier votre Isaac? Que êtes-vous prêt à sacrifier dans votre vie? Jusqu'où iriez-vous dans votre vie pour vous sacrifier pour Dieu et pour son œuvre? Renonçons-nous à ce que nous devons renoncer pour suivre Dieu? Pour certains, c'est difficile avec leur famille. La famille rend les choses difficiles. Mais en même temps, sommes-nous prêts, même si cela implique des difficultés et des tensions dans nos relations, à continuer à suivre Dieu quelles que soient les épreuves que cela pourrait nous apporter? C'est un sacrifice que nous devons être prêts à faire. Quels que soient les sacrifices auxquels nous sommes confrontés dans notre vie, quoi que nous devions abandonner pour suivre Dieu maintenant dans notre vie, cela n'est rien en comparaison de ce qu'Abraham a dû abandonner. Dieu ne demande à aucun d'entre nous de sacrifier son unique enfant. À aucun d'entre nous. Il ne nous demande pas cela à ce stade. Mais je vais vous poser cette question. Si Dieu nous demandait de faire cela, aurions-nous la foi d'Abraham? Ferions-nous ce qu'Abraham a fait? Suivrions-nous et imiterions-nous ses pas en tant que modèle pour nous tous? Car le sacrifice est un acte de foi extraordinaire. Nous voulons être comme ces grands hommes de foi, ces hommes et ces femmes de foi de la Bible. Nous devons faire ce qu'ils ont fait. Nous devons les imiter, car ils sont nos modèles. Le sacrifice, par définition, signifie l'inconfort. Lorsque nous sacrifions quelque chose dans notre vie, cela nous cause de l'inconfort. Ce n'est pas facile. Mais ce sont les inconforts de la vie qui nous aident à grandir. Pensez à une plante, un rosier. Nous avons des rosiers devant notre maison. Lorsque vous taillez ces rosiers, ils explosent l'année suivante. Mais vous devez les tailler. Monsieur Pack a récemment fait référence à cela dans un sermon. Tailler les buissons les fait pousser de manière explosive. Il en va de même pour nous. Si nous sommes prêts à sacrifier toute la merveilleuse croissance de la plante, si vous voulez, de l'année précédente, si nous sommes prêts à sacrifier cette croissance morte afin de pouvoir exploser davantage en croissance, nous exploserons effectivement. C'est pourquoi il est important de se sacrifier autant que possible pour Dieu et son œuvre. Cela ne veut pas dire que nous devons nous priver pour vivre dans la pauvreté ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas le but. Le but est que nous devons faire des sacrifices là où nous le pouvons. Parfois, cela se traduit par des offrandes, qu'il s'agisse d'offrandes régulières tout au long de l'année ou d'offrandes lors des jours saints. Mais nous pouvons faire des sacrifices autres que financiers. Nous pouvons sacrifier notre temps. Nous pouvons sacrifier. Vous avez entendu aujourd'hui un sermon sur la méditation. Méditez avant d'aller se coucher. Considérez cela comme une occasion de sacrifier votre temps pour vous améliorer, alors que vous pourriez faire autre chose qui vous plaît. Peut-être aimez-vous regarder un film, peut-être aimez-vous lire un livre. Si vous aimez faire ces choses, c'est très bien. Mais sacrifions-nous notre temps pour montrer à Dieu que nous avons foi en lui? Dans la prière, dans l'étude, Sacrifions-nous notre temps pour nos frères? Consacrons-nous notre temps à aider les personnes dans le besoin? Revenons à Hébreux 11. Le verset 24 nous donne un autre exemple de sacrifice. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps aux délices de l'infamie. Ainsi, lorsque Pharaon eut environ 40 ans, il tua l'Égyptien qui maltraitait les Israélites. À ce moment-là, il fut en quelque sorte capturé par les Égyptiens. Les Égyptiens virent ce qu'il avait fait. Moïse décida alors de retourner avec les, de devenir prêtre à Madian et tout ce que vous savez. Pendant les 40 années qui suivirent, il continua ainsi avec les Israélites, souffrant avec eux. Il ne continua pas à être le fils du Pharaon, le fils de la fille du Pharaon. Il avait eu une vie formidable pendant les 40 premières années. Mais à un moment donné, il vit les injustices commises envers les Israélites et décida d'agir. Et il savait que cela pourrait avoir des conséquences, mais il a sacrifié la position importante qu'il occupait au sein du gouvernement égyptien, si vous voulez, afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est le sacrifice qu'il a fait. Et par son sacrifice, il a fait preuve d'une grande foi. Les moments d'épreuve ne sont donc pas faciles ni agréables. Pour lui, il a dû souffrir. Il a sacrifié les 40 années suivantes pour souffrir. Mais les moments d'épreuve ne sont ni faciles ni agréables, ils sont nécessaires, et nous devons faire tout notre possible pour les accueillir et les accepter, sachant le caractère qu'ils forgeront en nous à la fin. C'est donc le premier grand point de la foi. Si nous voulons, pour ainsi dire, imiter ces grands modèles de foi, la première chose que nous devons faire dans la vie est de nous sacrifier. Voici le deuxième point. La foi, c'est l'obéissance. L'obéissance. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut faire ce qu'il veut et vivre sa vie comme il l'entend, sans vraiment rendre de compte à personne. C'est pourquoi c'est si difficile dans l'Église de Dieu, car Dieu a un gouvernement. Dieu a une structure. Dieu étant le. Dieu est Christ qui dirige l'Église avec nous tous à travers son ministère et son gouvernement. Et Dieu veut que nous menions une vie d'obéissance administrée par son gouvernement. Revenons donc au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, au verset 5. Verset 5. C'est par la foi qu'Énoch fut enlevé afin de ne pas voir la mort, et il ne fut pas trouvé, parce qu'il avait été enlevé par Dieu. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu a trouvé la foi en Énoch simplement parce qu'il cherchait à plaire à Dieu. Maintenant, que signifie plaire à Dieu? Comment plaît-on à Dieu? Il est clair que le sacrifice de Caïn n'était pas aussi agréable à Dieu que celui d'Abel. Alors, que signifie plaire à Dieu? Plaire signifie satisfaire entièrement. En tant que père, si je vois que ma fille, qui vient d'avoir une petite sœur, est très excitée, mais qu'elle est encore trop jeune pour savoir comment faire plaisir à maman et papa, mais que notre fille aînée m'écoute, fait ce que je lui demande et m'obéit, je suis très heureux en tant que père. Si je lui demande de faire quelque chose et qu'elle le fait la première fois sans que j'aie à le lui répéter, et qu'elle vient en courant pour faire ce que je lui ai demandé, cela me rend très heureux. Tous les parents peuvent comprendre cela. Je me sens entièrement satisfait. Et cela me donne envie de lui offrir le monde. Cela me donne envie de faire n'importe quoi pour elle. Pensez à Dieu. C'est la même chose. Lorsque nous obéissons à Dieu en tant que ses enfants, cela le comble entièrement. Il veut nous offrir le monde. Il veut tout nous donner. Tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela. Des plaisirs éternels. Pensez à ce que cela signifie que Dieu nous donnera éternellement si nous lui obéissons simplement. Il veut simplement que nous lui obéissions. Il veut simplement que nous vivions la vie qu'il nous dit de vivre, et non la vie que nous voulons vivre. Et ce n'est pas trop demandé. Il veut simplement que nous suivions sa parole, que nous menions une vie bonne et juste, et en faisant cela, il nous donnera tout. Ainsi, Enoch a plu à Dieu. Il a plu à Dieu. Tout comme nous espérons plaire à Dieu nous-mêmes. Et la manière dont nous y parvenons, c'est par l'obéissance. Passons au verset 8, deux versets plus loin. C'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et sortit pour aller vers un lieu qu'il devait recevoir en héritage. La foi d'Abraham était définie par son obéissance. Il est parti sans savoir où il allait. Passons au chapitre 12 de la Genèse. Nous allons lire rapidement ce récit. Il est très court. 4 versets. Pensez à la foi qu'il a fallu à Abraham pour faire cela. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Quitte ta famille, quitte le pays que tu connais. Essayez d'imaginer qu'on nous demande cela aujourd'hui. Tout simplement, laissez tout derrière vous, à une époque où il n'y avait pas de téléphone portable, d'internet, de Skype, de Team, ni aucun autre moyen technologique nous permettant de communiquer à distance. Quand Abraham a reçu cet ordre, quitte ta famille et quitte ton pays, cela signifiait quelque chose. Ce n'était pas facile. On ne peut pas simplement y retourner pour leur rendre visite parce qu'un billet d'avion nous attend. C'est très facile après avoir passé 5 heures au téléphone avec eux. Rien de tout cela n'existait. On ne peut pas y retourner facilement. Il fallait soit monter à cheval, soit marcher, et c'était tout. La foi qu'il a fallu à Abraham pour simplement quitter sa patrie était immense. Mais voici ce qui a été promis à Abraham au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et voici la foi d'Abraham. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il partit de Charan. 75 ans. Je pense qu'Abraham a vécu jusqu'à environ 175 ans, il n'avait donc vécu que les 3/7 de sa vie lorsqu'il a été appelé à partir. Cela a demandé une grande foi. Comme le dit mon beau-père, parfois Dieu attend simplement que nous obéissions avant de nous expliquer pourquoi. Abraham ne savait probablement pas ce qui se passait, ni où il allait. On lui avait au moins dit que les promesses finiraient par s'accomplir, mais il ne savait pas où il allait. On lui avait simplement dit de se lever et de partir, de se mettre en route. Et par la foi, il l'a fait. Parce qu'il l'a fait sans savoir où il allait, Dieu lui a finalement donné de plus en plus de compréhension. Et nous savons tous où Abraham a atterri. Abraham a engendré Isaac et Jacob et toute la lignée qui est issue d'eux. La foi exige donc l'obéissance. Exode 24, verset 7, ouvrez vos Bibles. Après Exode 20, la loi a été donnée. Nous savons que Moïse a reçu la loi dans Exode 20. Puis les statuts et les jugements dans 21, 2 et 3. Après que tout cela ait été fait, Exode 24 à 7 dit ceci, et il prit le livre, Moïse, le livre de l'Alliance, et le lut devant le peuple. Et ils dirent, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous obéirons. Après que Moïse eut reçu les 10 commandements, après qu'ils eurent été prononcés par Dieu depuis le mont Sinaï, Et après que Moïse eut reçu toutes les lois, les jugements, les statuts, etc. dans les chapitres précédents, une fois que tout eut été donné, Moïse dit au peuple, il leur lut, et tout le peuple d'Israël dit, nous obéirons. Nous obéirons. Eh bien, nous savons qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont accepté d'obéir à toute la loi. Mais passons à Hébreux 3. Que s'est-il passé lorsqu'ils ont refusé de croire? Comment Dieu a-t-il considéré cela? Hébreux chapitre 3, verset 16. Hébreux 3, verset 16. Car certains, après l'avoir entendu, ont provoqué Dieu. Mais tous ceux qui étaient sortis d'Égypte avec Moïse n'étaient pas tous provoqués. Mais avec qui Dieu a-t-il été mécontent pendant 40 ans? Rappelez-vous, c'est au début de ces 40 années qu'ils ont accepté d'obéir à toutes les lois de l'Exode 24, mais contre qui Dieu a-t-il été affligé pendant ces 40 années? N'était-ce pas contre ceux qui avaient péché, dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui n'avaient pas cru? Or, le mot croire signifie ici désobéir. Le peuple a désobéi à Dieu. Et parce qu'ils ont désobéi, ils ont dit qu'ils obéiraient, nous venons de le lire, ils ont dit, nous obéirons à toi et à la loi que tu viens de nous donner, mais ensuite ils ne l'ont pas fait. Et quand ils ont désobéi, comment Dieu a-t-il jugé cela? Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. La désobéissance est synonyme d'incrédulité, d'infidélité. Ainsi, lorsque nous lisons dans Hébreux 11, vous pouvez revenir quelques chapitres en arrière. Lorsque nous lisons dans Hébreux 11, ces grands hommes de foi de Dieu, qui ont obéi, c'est cela qui les a rendus grands dans la foi. Parce qu'ils ont obéi, ils étaient grands dans la foi. La désobéissance signifiait l'incrédulité, l'infidélité. Mes frères, pour nous, notre niveau d'obéissance aux lois et aux commandements de Dieu nous indique absolument le degré de notre foi. C'est une équation. En obéissant davantage à Dieu, vous montrez en fait à Dieu que vous avez une plus grande foi en lui. L'obéissance que nous avons démontre notre foi. Bien qu'elle ne semble pas liée à première vue, la foi et l'obéissance vont de pair. Et encore une fois, l'obéissance, ce sont les œuvres que nous accomplissons, les choses que nous faisons lorsque nous obéissons à Dieu en observant le sabbat, en observant les jours saints, en donnant la dîme, en mettant de côté la deuxième dîme pour la fête. Lorsque nous obéissons à Dieu en tout, il voit que nous avons une plus grande foi en lui. Et la foi sans les œuvres est morte. Revenons donc ici, dans Hébreux 11, où le dernier point concernant l'obéissance se trouve au verset 30. C'est par la foi que les murs de Jéricho tombèrent, après avoir été encerclés pendant 7 jours. Obéissez à Dieu avant de voir sa main puissante à l'œuvre. Comme pour Abraham, il a fallu de la foi pour obéir à ce que Dieu avait ordonné à Josué. Josué a reçu l'ordre d'encercler Jéricho, sous ses trompettes, de faire le tour de Jéricho pendant 7 jours d'affilée, et le 7e jour, toutes les murailles s'écrouleraient. Or, si Israël entendait cela de troisième ou de deuxième main, par Josué, il fallait beaucoup de foi aux Israélites pour croire ce que Josué disait, à savoir qu'en fin de compte, en faisant cela. Imaginez-vous être les Israélites, sonnant les trompettes et marchant autour de Jéricho, disant le premier jour, j'espère vraiment que le 7e jour, ces murs s'écrouleront, puis le 2e jour, j'espère que ces murs s'écrouleront. Et le 7e jour, il leur a fallu de la foi pour croire ce que Josué avait entendu de Dieu. C'est pourquoi il est dit au verset 30, c'est par la foi que les murs de Jéricho s'écroulèrent, après avoir été encerclés pendant 7 jours, parce qu'ils ont simplement obéi. Ils ont fait ce que Josué leur avait dit. Et quand ils l'ont fait, les murs sont tombés. Il a fallu de la foi aux Israélites pour obéir à l'ordre de Josué donné par Dieu. C'est donc le deuxième point, l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance. Nous avons vu que le premier point était que la foi, c'est le sacrifice. Le deuxième point était que la foi, c'est l'obéissance. Et voici le troisième point, la foi, c'est craindre Dieu. Revenons au verset 7. La foi, c'est craindre Dieu. Sans la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une foi véritable. Voyons des exemples de cela dans le verset 7. C'est par la foi que Noé, averti par Dieu de choses qu'on ne voyait pas encore, s'est levé, craintif, et a préparé une arche pour sauver sa famille, par laquelle il a condamné le monde, et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il avait une grande crainte de Dieu. Pouvez-vous imaginer dans un monde, mettez-vous à la place de Noé. Imaginez dans un monde coupé de Dieu, les moqueries, les railleries qui s'abattraient sur Noé. Pendant toutes ces années, quelle que soit leur durée, je pense que c'était quelque chose. J'ai oublié combien de temps cela a duré exactement. Cela a peut-être même été 100 ans, mais je me trompe peut-être. Mais il a passé beaucoup de temps à construire cette arche, tout cela en prévision d'un déluge qu'il savait imminent, car Dieu l'avait promis. Mais il a dû le faire dans la crainte. Il agissait dans la crainte. Ce n'est pas comme s'il avait commencé à pleuvoir. Il avait peur avant même que la pluie ne tombe. Mais il avait vu ce que Dieu avait promis et il s'est donc mis à agir. Verset 23. Hébreux 11, 23. Par la foi, deuxième point ici, Moïse, lorsqu'il fut né, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils voyaient qu'il était un enfant remarquable, et ils ne craignaient pas le roi. Craindre Dieu, par définition, signifie que vous n'allez pas craindre les hommes. Si nous craignons les hommes, par définition, nous ne craignons pas Dieu. Les deux vont de pair. On ne peut pas craindre les hommes et craindre Dieu en même temps. On doit soit craindre Dieu, soit craindre les hommes. Revenons donc au chapitre 1 de l'Exode et lisons ce que les parents de Moïse ont exprimé comme foi. Ce sont eux qui ont rendu ce chapitre sur la foi possible. Exode chapitre 1. Reprenons au verset 14. Tout au long de cette première partie de l'Exode, les Israélites étaient asservis par l'Égypte et soumis à un esclavage de plus en plus dur. Le Pharaon n'aimait pas cela, alors il a continué. Il voulait les opprimer, il voulait les écraser, mais ils continuaient à prospérer malgré la pression qui pesait sur eux. Nous arrivons donc au verset 14. Il leur rendait la vie amère par de durs travaux, en mortier et en briques, et par toutes sortes de travaux des champs. Tous les travaux qu'il leur imposait étaient pénibles. Je veux dire par là que les Égyptiens étaient des tyrans. Ils les réduisaient en esclavage. Ils les soumettaient à un dur servage. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aux sages-femmes hébraïques, dont l'une s'appelait Séphora et l'autre Pua. Il leur dit, « Lorsque vous accoucherez les femmes hébraïques et que vous les verrez sur le siège, si c'est un fils, vous le tuerez. » Il ordonnait aux sages-femmes de tuer tous les garçons qui naissaient. Mais si c'est une fille, elle vivra. Mais les sages-femmes craignaient Dieu. Ce sont des sages-femmes hébraïques. Ce sont donc les sages-femmes des Hébreux. Elles craignaient Dieu. Et elles ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait ordonné, mais elles laissèrent les garçons en vie. Elles ont défié le gouvernement égyptien. Elles ne craignaient pas les hommes. Elles craignaient Dieu à la place. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, verset 18, « Pourquoi avez-vous fait cela et avez-vous laissé vivre les enfants mâles ?» Et les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est parce que les femmes hébraïques ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vives, et elles accouchent avant que les sages-femmes n'arrivent auprès d'elles. C'est pourquoi Dieu a fait du bien aux sages-femmes, et le peuple s'est multiplié et est devenu très puissant. Et parce que les sages-femmes craignaient Dieu, il leur fit des maisons. Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tous les garçons qui naîtront, et vous laisserez vivre les filles. Pharaon fut encore plus irrité, et c'est là qu'entre en scène Moïse. Chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi sortit et prit pour femme une fille de Lévi, les parents de Moïse. La femme devint enceinte et enfanta un fils. Quand elle vit qu'il était beau, encore une fois, il s'agit de Moïse, c'est le même récit que nous lisons dans Hébreux 11. Elle le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne put plus le cacher, elle prit pour lui un panier en jonc, le recouvrit de bitume et de suif, et le déposa sur le bord du fleuve. Et l'histoire continue à partir de là. Puis la fille du Pharaon ramassa Moïse sur les berges du fleuve, et vous connaissez tous la suite. Mais là où la foi est entrée en jeu, c'est dans la réaction des parents de Moïse. Tout comme ces sages-femmes qui craignaient Dieu et qui ont dit qu'elles craignaient Dieu en désobéissant au commandement du Pharaon, les parents de Moïse ont fait de même. Et ce faisant, ils ont fait preuve d'une grande foi. De grands actes de foi. S'ils n'avaient pas fait preuve de foi à ce moment-là, s'ils avaient laissé leur enfant être tué, même au péril de leur propre vie, nous n'aurions pas aujourd'hui Moïse, que nous considérons comme un autre grand leader de la foi dans la Bible. Revenons donc au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Craindre Dieu est essentiel. Craindre Dieu est essentiel pour notre foi. Monsieur Pack a donné un sermon il y a plusieurs années. Je devrais vérifier de quelle année il s'agit, mais il avait donné un sermon sur la crainte de Dieu, qui était formidable. Si vous avez l'occasion de la réécouter, je vous encourage à le faire. Hébreux 11, 27, c'est le verset suivant. Il continue à parler de Moïse. Il ne parle pas de ses parents, mais de Moïse. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans craindre la colère du roi. Il a donc suivi les traces de ses parents. Il a fait exactement ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas craint le roi, ils n'ont pas craint Pharaon, et Moïse a fait de même. Il n'a pas craint le roi. Car il persévérait, comme s'il voyait celui qui est invisible. Moïse a enduré de grandes épreuves. Hébreux chapitre 13. Juste un chapitre plus loin, lisons le verset 5. Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite soit sans cupidité, et contentez-vous de ce que vous avez. Car il a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point, afin que nous puissions dire avec assurance, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai point ce que l'homme peut me faire. » Nous pouvons facilement craindre ce que les hommes nous feront. Il est très naturel pour nous de craindre la mort. L'une des grandes peurs dans la vie est celle de la mort, de l'échec, d'être licencié, ou quelque chose de ce genre. Nous pouvons craindre les gens, et lorsque nous craignons les gens, nos actions suivent. Si nous craignons les gens qui nous menacent, nous avons tendance à essayer de leur plaire au lieu d'obéir à Dieu. C'est là que Moïse a décidé, « Je ne craindrai pas les hommes. Je ne laisserai pas les menaces des hommes me détourner de l'obéissance à Dieu. » Verset 7, « Souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur conduite, et imitez leur foi. » Nous parcourrons tout un chapitre, mes frères, dans Hébreux 11, pour suivre la foi de ces personnes. Souvenez-vous de ceux qui ont autorité sur vous, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et suivez leur foi, en considérant la fin de leur conduite. Lorsque nous suivons l'exemple d'Abraham, l'exemple de Moïse, L'exemple des parents de Moïse qui craignaient Dieu et obéissaient à Dieu, alors, mes frères, nous pourrions tout aussi bien nous retrouver dans ce livre de la foi qu'est Hébreux 11. Nous ne sommes pas différents, et Dieu le considérerait ainsi. Revenons à Hébreux 11, verset 29. Un autre exemple. C'est par la foi que Moïse et Israël traversèrent la mer Rouge comme par un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui tentèrent de les suivre, furent engloutis. Pouvez-vous imaginer la peur que cela a dû être? Ils devaient craindre Dieu plutôt que les Égyptiens derrière eux. S'ils n'avaient pas craint Dieu, suivi Moïse et obéi au gouvernement de Dieu en traversant cette scène incroyable, en marchant à travers la mer Rouge avec l'eau de chaque côté, ils auraient facilement cédé à la peur des hommes et les auraient suivis pour retourner en Égypte. Même après avoir traversé la mer Rouge, ils voulaient retourner en Égypte. Mais le fait est que plus nous montrons de crainte, plus nous avons de crainte de Dieu en ne montrant pas la crainte des hommes, plus notre foi sera grande. Et enfin, verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui ne crurent pas, lorsqu'elle avait reçu les espions avec paix. Vous pouvez revenir sur le récit dans Josué 2. Nous n'avons pas besoin de le lire en entier, mais c'est tout le récit de Rahab lorsqu'elle a accueilli les espions et que sa vie était en danger. Ils étaient à ses trousses. Ils savaient qu'elle cachait les espions. Elle est donc allée s'assurer qu'ils étaient bien cachés du gouvernement de Jéricho, tout cela parce qu'elle croyait et avait entendu les récits de la traversée de la mer Rouge par Israël et de la manière dont Dieu les avait délivrés. Elle avait simplement entendu des récits, mes frères, et elle avait une grande crainte de Dieu. C'est ce qui l'a conduite à faire partie de ce chapitre de la foi. Elle avait une telle crainte de Dieu que lorsqu'elle a appris qu'Israël marchait sur Jéricho, elle savait que l'issue ne serait pas bonne pour Jéricho. Et finalement, ce fut le cas. Nous avons vu les murs s'écrouler. Rahab a donc fait preuve d'une grande foi en défiant son gouvernement, sans craindre les hommes, afin d'obéir à Dieu. Mes frères, la leçon à en tirer est claire. Il y a des moments où nous pouvons être confrontés à de grandes épreuves de notre foi, et où nous pouvons être testés sur la crainte que nous avons, que ce soit envers les hommes ou envers Dieu. Est-ce que je crains Dieu suffisamment pour être prêt à perdre mon emploi si cela signifie que je suis menacé de perdre mon emploi à cause du sabbat, des jours saints ou quelque chose de ce genre? Craignons-nous les hommes plus que Dieu? C'est là la clé. Si nous obéissons simplement par crainte, Dieu considérera cela comme une grande foi. Donc, le dernier point est le suivant, la foi, c'est la vision. La foi, c'est la vision. Nous savons tous que la Bible dit que sans vision, le peuple périt. Eh bien, on pourrait dire que sans vision, le peuple n'a pas la foi. Sans vision, il nous est impossible d'avoir une foi totale. Pensez à Abraham. Nous venons de lire son histoire il y a quelques instants. S'il a eu la foi nécessaire pour quitter son pays, c'est en partie parce qu'il a vu la vision que Dieu lui avait donnée, qu'il serait l'élu, qu'il serait le chef de nombreuses nations. Et que par sa descendance, de nombreuses nations, aussi nombreuses que le sable de la mer, finirait par descendre de lui. Il a vu cela. Il avait une vision et a laissé cette vision et cette perspective lointaine le persuader d'avoir une grande foi. Il en va de même pour nous. Si nous n'avons pas de vision, sans vision, nous ne pouvons pas avoir une grande foi. Lisons le verset 9 dans Hébreux 11. En parlant d'Abraham, relisons le verset 8. Par la foi, Abraham, lorsqu'il fut appelé, obéit et sortit de la terre qu'il devait recevoir en héritage, sans savoir où il allait. Par la foi, il séjourna dans la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Car il attendait une ville qui avait des fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham attendait, pourrait-on dire, la nouvelle. L'Apocalypse n'avait pas encore été écrite, nous ne savions donc rien du terme « Nouvelle Jérusalem ». Nous ne savions rien de la ville que Dieu allait construire. Abraham en avait probablement entendu parler par Dieu, mais il n'en a rien consigné, c'est pourquoi il est dit ici qu'il cherchait une ville dont Dieu était le fondateur et le constructeur. Il voyait au loin. Il ne laissait pas les choses matérielles de cette vie le dissuader d'avoir la foi. En voyant cela, cette grande vision, en ayant cette grande vision de quelque chose qui allait arriver même après sa mort. Rappelez-vous, il avait 75 ans lorsqu'il est parti. Il lui restait encore 100 ans à vivre avant de mourir, et il est toujours dans la tombe, attendant, inconscient, bien sûr, mais attendant, tout comme tous les grands personnages de la Bible attendent dans la tombe la promesse de la vie éternelle. Mais il avait cette vision. Il l'a gardée. Il l'a maintenue tout au long de sa vie, depuis le moment où on lui a dit de se lever et de quitter sa ville natale, sa patrie. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, a reçu la force d'avoir une postérité, car elle a jugé fidèle celui qui avait fait la promesse. Dieu nous fait beaucoup de promesses dans la vie, et Sarah a revendiqué cette promesse. Dieu l'a jugée fidèle parce qu'elle avait revendiqué la promesse d'avoir cet enfant. Passons au chapitre 18 de la Genèse. Genèse 18, verset 9. Genèse 18, verset 9. Ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » Il dit, « J'y retournerai vers toi au temps de la vie. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » C'est le récit qui est décrit dans Hébreux 11. Sarah l'entendit à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'être en état de femme. C'est pourquoi Sarah rit en elle-même. Abraham avait environ 100 ans à cette époque. Sarah rit en elle-même, en disant, « Après avoir vieilli, aurai-je encore du plaisir, moi qui ai vieilli ?» Et le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri, en disant, « Est-ce que je vais vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille ?» Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ?» Au temps fixé, « Je reviendrai vers toi, et Sarah aura un fils. » Sarah le nia, en disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais il dit, « Non, tu as ri. » Ainsi, même Sarah, qui est devenue l'une des figures de proue de la foi grâce à sa confiance en Dieu qui lui a donné un fils dans sa vieillesse, a commencé, d'une certaine manière, par manquer de foi. Cela montre, mes frères, que nous n'avons pas besoin d'être parfaits dans ce que nous faisons. Abraham n'était pas parfait dans sa foi, et il est devenu le père des croyants, nous le comprenons. Sarah n'était clairement pas parfaite dans sa foi, mais elle est devenue parfaite dans la foi, elle est devenue fidèle. Le chapitre 21, verset 1, le montre. Genèse 21, verset 1. Et le Seigneur visita Sarah comme il l'avait dit, et le Seigneur fit à Sarah comme il avait dit, car Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé que Dieu lui avait dit. Finalement, cet enfant est né. Mais même les personnes les plus fidèles mentionnées dans la Bible peuvent parfois vaciller. C'est une grande leçon pour nous tous. Cela s'éloigne un peu du sujet que nous abordons actuellement, à savoir que la foi, c'est avoir une vision, voir loin, mais cela est lié. Car pour que Sarah ait cette foi, Vous pouvez avoir une vision et des choses qui sont encore loin dans cette vie, ou vous pouvez avoir une vision des choses éternelles, que Dieu nous promet à tous lorsque nous recevrons la vie éternelle. C'est le genre de vision que nous devons avoir. Revenons donc à Hébreux 11. Hébreux 11, verset 13. Tous cela, en parlant de tous ceux qui ont été cités précédemment, à savoir Abel, Enoch, Noé, Abraham et Sarah, tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, mais après les avoir vus de loin, et ils ont été persuadés de leur réalité, et ils les ont embrassés, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Leur foi était définie par leur désir ardent du royaume, par leur recherche de choses qui n'étaient pas dans cette vie. Mes frères, ils étaient considérés comme des étrangers et des pèlerins sur terre. Cela signifie un étranger à côté de nous ou un résident étranger. Le peuple de Dieu, nous tous aujourd'hui compris, devrait se considérer comme des étrangers dans ce monde. Nous n'avons pas de grands yeux et une tête verte, mais nous devrions nous considérer comme des étrangers ou des étrangers. Des gens qui sont sur cette terre et qui regardent autour d'eux et disent « Je ne m'intègre vraiment pas ici. Je ne m'intègre pas. » Cela ne veut pas dire que nous voulons être bizarres ou étranges, mais nous ne pouvons pas nous considérer comme faisant partie de ce monde. Abraham ne le faisait pas. Enoch ne le faisait pas. Abel ne le faisait pas. Tous. Ils sont tous morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, mais ils ont tous cherché ces promesses loin parce qu'ils avaient une vision. Ils ont gardé à l'esprit leur objectif final parce que Dieu le leur avait promis. Et en faisant cela, en regardant au loin et en gardant constamment les yeux fixés sur leur objectif, cela leur a permis de plus en plus de vivre leur vie comme des étrangers sur cette terre. Jean 17, verset 14, en est un parfait exemple. Jean 17, verset 14. Le Christ dit, « Je leur ai donné ta parole. » Il prit le Père, le Christ prit le Père en disant, « Je leur ai donné, ton peuple, ta parole. » Et le monde les haït parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les retirer du monde. Nous devons vivre dans ce monde. Nous devons traverser la vie en faisant face à toutes les pressions, les difficultés, les luttes et les tentations que ce monde a à offrir. Nous ne devons pas être retirés de ce monde. Nous ne pouvons pas aller vivre sur Mars et être chrétiens. Dieu ne veut pas cela, mais il veut que nous soyons préservés du monde, préservés du mal de ce monde. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, et ta parole est la vérité. Nous sommes mis à part. Nous sommes mis à part du monde. Plus nous commençons à ressembler au monde, à agir comme le monde, à penser comme le monde, à vivre notre vie d'une manière mondaine, moins nous avons foi en Dieu. C'est l'équation ici. Lorsque nous vivons, agissons et pensons comme les gens du monde, nous ne pensons pas loin. Nous ne gardons pas les yeux fixés sur les choses d'en haut et les choses lointaines. Nous pensons au présent, au physique et aux choses qui ne seront pas éternelles. Tout cela va disparaître, mes frères. Ce monde tel que nous le connaissons va changer lorsque le royaume de Dieu viendra. Nous devons simplement garder les yeux fixés sur cela. Voulons-nous essayer de nous conformer à ce monde maintenant, ou voulons-nous essayer de nous conformer à la voix de Dieu afin de pouvoir vivre éternellement et que tout le monde finisse par nous admirer pour notre grande foi? Vos noms peuvent également être inscrits dans ce livre. Avons-nous la vision et donc la foi de ces grands leaders bibliques? Revenons à Hébreux 11. Continuons à lire verset 15. Et, en vérité, s'ils avaient gardé le souvenir du pays d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Si nous reportons nos pensées sur le monde, il est facile de retomber dans nos anciens pièges, de commencer à nous conformer, de vouloir ressembler à ceux qui nous entourent et de prendre pour modèle des personnes de ce monde. Nos modèles devraient être ceux qui ont une grande foi en la Bible. Verset 16. Mais maintenant, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de se nommer leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Dieu nous a préparé cette grande promesse, celle de faire partie de sa famille, d'entrer dans la nouvelle Jérusalem, toutes les choses qu'il a déclarées dans sa parole. C'est ce qui nous attend, si nous sommes prêts à garder les yeux fixés sur cet objectif, à nous concentrer sur notre appartenance à cette ville, à cette patrie, si vous voulez. D'accord. Verset 21. C'est par la foi que Jacob, à l'heure de sa mort, bénit les fils de Joseph et se prosterna, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Maintenant, quel est le rapport avec la vision? Eh bien, Jacob a gardé sa foi jusqu'à sa mort. Regardez ce qui est dit ici. C'est par la foi que Jacob, à l'heure de sa mort, bénit ses fils. Bien sûr, il fallait de la foi pour bénir ses enfants et savoir ce qui en découlerait, les bénédictions de Joseph avec Éphraïm et Manassé et tout ce qui en résulte. Nous savons qu'il fallait beaucoup de foi, mais considérez la foi qu'il avait simplement en étant un vieil homme, il a gardé sa foi jusqu'à sa mort. C'est aussi avoir une vision. S'accrocher à la vérité même jusqu'à un âge avancé est une façon d'exprimer une grande foi. La foi signifie ne jamais, jamais, jamais abandonner, quoi qu'il arrive. Et enfin, au verset 26 et 27. Revenons à Moïse. Moïse a estimé que l'opprobre de Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Plutôt que de retourner en Égypte sous un joug sévère, où la vie aurait pu être plus facile d'une certaine manière que d'errer dans le désert pendant 40 ans, il a gardé son esprit concentré sur les richesses plus grandes de la vie éternelle, les promesses que Dieu lui avait faites, à lui et à Israël. Car il avait en vue la récompense qui lui était réservée. Il avait en vue la récompense qui lui était réservée. C'est par la foi qu'il a abandonné l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il persévérait comme s'il voyait celui qui est invisible. On ne peut pas se concentrer et avoir une vision des choses lointaines si on est concentré sur le présent, sur cette vie. C'est là, pour en revenir au sermon, qu'il est important de méditer, de réfléchir à ce que Dieu a fait pour nous et d'avoir une vision de ce que Dieu va nous donner à l'avenir. Cela nous aidera à avoir une plus grande foi et à nous distinguer du reste du monde afin de ne pas tomber dans le monde. Moïse savait que sa récompense l'attendait, et il voyait l'invisible. Il voyait le Dieu invisible. Alors, mes frères, pour conclure, en regardant ces modèles dans Hébreux 11, n'oublions jamais ces quatre actions fondamentales qui ont défini leur foi. Leur foi était définie par le sacrifice, par l'obéissance, par la crainte de Dieu et par le maintien de leur vision. Alors, mes frères, si nous pouvons conserver ces mêmes qualités, votre nom pourrait bien être inscrit dans le livre des Hébreux 11.